Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est une histoire passionnante. L'histoire de Jacques Fesch. En 1954, à Paris, au cours d'un braquage, il tue un policier. Arrêté, il fait en prison un chemin spirituel. Il se convertit. Il est condamné à mort, exécuté. Et l'Église catholique veut aujourd'hui en faire un saint. Saint Jacques Fesch. Le mérite-t-il? Pour le débrief, j'ai invité tout à l'heure l'avocat député Gilbert Collard. Il lui a consacré un livre aux presses de la Renaissance, Assassin, avec un T. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Venez avec moi dans le quartier de la Bourse à Paris, un soir de février 1954, le 25. Vous voyez la Bourse, le Palais Brongniart? Juste en face, au 39 rue Vivienne, vous voyez la boutique de change, le comptoir de change et de numismatique. Petite boutique, mais bien placée. Elle est tenue par un monsieur qui s'appelle Alexandre Silberstein. Il est 6h20 de l'après-midi, la nuit est en train de tomber, les employés des bureaux alentours se pressent vers le métro ou vers les bistrots. Mais vous, vous ne quittez pas la boutique des yeux, parce que c'est là que ça va se passer. Vous voyez les deux hommes qui entrent dans la boutique? C'est maintenant que ça commence. Ah! Bonjour, monsieur. Vous venez pour les Napoléons que vous m'avez commandés hier? Je les ai. Ma banque me les a livrés. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, laissez-moi d'abord vérifier le cours du jour auprès de ma banque, je vous fais la facture et je vous donne les pièces. Allô? Oui, bonjour, Alexandre Silberstein à l'appareil. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le cours du Napoléon or? Oui. Entendu. Merci. Fiston, tu vas chercher les pièces pour ces messieurs? C'est là que ça bascule. L'un des hommes sort de la boutique et l'autre, un grand blond, sort un revolver de sa sacoche. Et maintenant, vide ton fric ou je tire. Allons. Vous avez l'air raisonnable. Je suis un ancien combattant. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous allez gâcher votre vie. Comme réponse, bim! Monsieur Silberstein reçoit un coup de crosse sur le crâne. Et après, il étale toute sa caisse sur le comptoir. Plus vite! Bim! Deuxième coup sur la tête. Et là, le maladroit fait tomber son revolver et en le ramassant, un coup de feu part et il se blesse lui-même à la main gauche. Pendant ce temps, M. Silberstein tente d'aller se planquer dans un cagibi, ses aigles le rattrapent et le frappent à nouveau. Bim! Bim! Et Silberstein s'affaisse. Le grand blond ramasse tous les billets sur le comptoir, il y en a pour environ 300 000 francs. Et prenant un air dégagé, il sort de la boutique. Mais entre-temps, M. Silberstein s'est remis, il appelle à l'aide. Au secours! Au voleur! Alors le grand blond se met à courir. Mais derrière, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes à lui courir après. Devant, le grand blond a perdu ses lunettes. Il bouscule des passants. Il trébuche à l'angle de la rue Richelieu. La meute derrière lui se rapproche. Il court toujours. Et à la faveur de la nuit qui vient de tomber, il disparaît dans l'obscurité. Il entre dans un immeuble au 9 boulevard des Italiens. Il monte l'escalier 4 à 4. Il s'arrête sur le palier du 5e étage. Il s'assoit sur les marches. Et il décide d'attendre un peu avant de ressortir. À un moment, il n'entend plus de bruit dehors. Pas de sirène de police au loin. Alors le grand blond décide de tenter le coup. Il descend jusqu'à la cour. Merde! Il y a un policier en tenue devant la porte et un attroupement devant la loge du concierge. Tant pis, il y va. Il se dirige vers la porte, lentement, calmement, l'air détaché. Et au moment où il passe le groupe, il y en a un qui crie. C'est lui!
C'est le bandit, je le reconnais.
Et c'est reparti. Le grand blond se met à courir vers la porte. Le policier le voit, il dégaine et il crie.
« Prends les mains ou je tire !»
Et là, le grand blond se retourne, il met la main dans sa poche et... Il a tiré au jugé à travers son imperméable. Et le gardien de la paix, Jacques Vergne, 35 ans, veuf, père d'une petite fille, s'écroule. Il a reçu une balle en plein cœur. Il est mort. À ce moment-là, le grand blond se remet à courir sur les boulevards, les gens se lancent à sa poursuite, lui, il a son revolver à la main, un homme tente de l'agripper, il le blesse à la nuque, et il poursuit sa course. Vers le métro Richelieu-Drouot, il arrive en haut de l'escalier du métro, il tire au hasard derrière lui. Il descend les marches 4 à 4, mais en bas, la porte vitrée est fermée, il n'arrive pas à l'ouvrir. Il se retrouve plaqué au sol. Il tente de se dégager, il tire encore deux coups de feu. Et finalement, il est maîtrisé et emmené sur le champ au commissariat, où il arrive en sang, il a été roué de coups. Le gardien de la paix qui le dépose dans le hall annonce.
« Je vous amène ce gars-là. Il a tué un collègue. »
Cet homme, on ne connaît pas encore son nom, mais c'est un tueur de flics. Et avouez que vous avez un peu de mal à imaginer que dans 50 ans, l'Église catholique va décider d'en faire un saint, n'est-ce pas? Un tueur de flics. Un flic sur le carreau, c'est le patron de la criminelle, le commissaire divisionnaire Fernet en personne, qui prend la direction de l'enquête.
Bien, monsieur, commençons par le début. Comment vous appelez-vous?
Fraîche. Je m'appelle Jacques Fraîche.
Et quel est votre âge?
J'ai 24 ans.
Et d'entrée, ce Jacques Fraîche reconnaît les faits. Mais il est très énervé de s'être laissé prendre. Sur son carnet de commissaire note, aucun remords, aucun regret. Son comparse, lui aussi, a été arrêté. Il s'appelle Criquet.
Moi, j'étais pas au courant qu'il voulait braquer ce monsieur-là. Je savais pas qu'il était armé. J'y suis pour rien, moi. J'étais dehors.
On fait venir monsieur Silberstein. Il les reconnaît tout de suite, tous les deux. Et après, on les entasse dans deux tractions avant, direction le quai des Orfèvres. La suite, c'est là-bas que ça se passe. Et là-bas, que voulez-vous? Ça se passe à l'ancienne. Un tueur de flics, pensez-vous? On va pas lui offrir un bouquet de roses. Et donc le commissaire laisse d'abord jouer ses inspecteurs. Ils ouvrent la machine à baffes. Dans ces années-là, au 36, on a la mornifle facile. Et après, Fernet prend Fraîche entre quatre yeux dans son bureau.
Pourquoi vous l'avez braqué, cet agent de change?
Je voulais de l'argent. Pour m'acheter un bateau. Je voulais partir à Tahiti.
Alors j'ai décidé d'attaquer un changeur.
Et pourquoi vous ne vous êtes pas rendu?
Pourquoi vous avez tiré?
Ben, le policier m'a fait peur. J'ai tiré par réflexe, quoi.
Au moins, ce Jacques Fraîche ne se cache pas derrière son petit doigt. Il assume, il dit les choses. Mais il n'exprime aucun regret, sinon celui de s'être fait prendre. Pas un mot pour la victime.
Vous avez repéré les lieux?
Ouais, hier.
Et le revolver, vous l'avez acheté quand?
Je l'ai emprunté à mon père.
Et quand avez-vous enlevé le cran d'arrêt?
Je sais plus.
Vous avez compris qu'en posant cette question, le commissaire Fernet cherche à établir la préméditation, à prouver que c'est un assassinat. Et là, l'enjeu est très clair. Un assassin de flic, ça va tout droit à la guillotine. Tout droit, sûr et certain. Ensuite, le commissaire interroge lui-même Criquet, le complice, Pierrette, la femme de Fraîche, son père aussi, à qui appartient le revolver. Et puis voilà, hein, l'affaire est bouclée. Le commissaire peut taper son rapport.
Fraîche
a conçu et réalisé son projet seul. Il a préparé et prémédité. Il a enlevé le cran d'arrêt de son arme par avance. Il avait l'intention de tuer. Sa motivation était l'argent. Dans cette affaire, son complice Criquet a un rôle secondaire. Il s'est fait manipuler. Voilà. Le commissaire a bouclé son enquête de flagrant délit et il passe la main au juge d'instruction, le juge Fayon, qui sur les faits eux-mêmes n'a plus grand-chose à apprendre, puisque Fesch a avoué, il est bien parti pour l'échafaud. Écoutez ce que dit le code pénal à l'époque. Le meurtre entraînera la peine de mort lorsqu'il aura été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. C'est ce que je vous disais. L'agression du changeur plus le meurtre du gardien de la Péverne, ça fait deux crimes. Jacques Fesch n'échappera pas à la peine capitale. Au fond, il ne reste au juge qu'une seule chose à éclaircir. Qui est ce Jacques Fesch? Comment est-il fait? Quelles étaient ses motivations profondes? Avant tout, c'est un fils de bourgeois, originaire de Saint-Germain-en-Laye. Son père est banquier, un type assez original par ailleurs, musicien, cultivé, mais perché, totalement perché, et pas du tout paternel. Mère au foyer, brave et dévouée, mais malheureuse dans son couple. Une donnée qui a son importance, ce Jacques Fesch est plutôt beau. Grand, blond, les yeux bleus, les traits très fins. Il est même très beau, mais un peu mou. Ses copains disent qu'il est toujours dans la lune, absent, qu'il a l'air de s'ennuyer, qu'il ne s'intéresse à rien. Au collège et au lycée, il n'a jamais vraiment posé de problème. Mais d'après ses profs, il ne faisait rien. Si ce n'est draguer, bambocher et courir les boîtes de jazz. Et d'ailleurs, à la fin, il n'a pas eu son bachot. Il a fait son service militaire, rien à dire. Si ce n'est que c'est écrit dans son dossier, c'est un mauvais tireur. Pendant son service, sa petite amie Pierrette tombe enceinte. Et donc il l'épouse. C'est comme ça qu'on fait dans les années 50. Mais les parents de Fesch n'apprécient pas, car Pierrette est juive. Et eux, ils sont antisémites. Le couple s'installe donc chez ses parents à elle. Un temps, Jacques travaille pour son beau-père, mais l'idiot tape dans la caisse. Le beau-père s'en aperçoit. Alors il le met dehors. Et Pierrette aussi d'ailleurs. Le met dehors, même s'il continue à se voir de temps en temps. Bon, ce qui ressort, c'est que c'est un immature, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dirait un branleur. Absolument pas l'idée qu'on peut se faire, dans les années 50, d'un mari et encore moins d'un père de famille. Et donc, le dilettante se retrouve sans travail. Et du coup, sa mère, sa brave mère, qui est désespérée, lui donne 1 million de francs. Avec ça, mon fils, tu n'as qu'à t'acheter une entreprise de livraison. De livraison de charbon, par exemple. Ça paye bien. Il faut que tu travailles. Le voilà donc, patron. Sauf que ce petit branleur dépense la moitié de la somme pour s'acheter une voiture de fonction. Une sportive, bien sûr. Une Simca, avec des sièges en cuir vert. Un aspirateur à gonzesse, comme on dirait aujourd'hui. Assez peu utile, vous en conviendrez, pour livrer du charbon. Entre nous, il ne livrera jamais de charbon. En revanche, il garde la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à rêver de Tahiti. Car il a lu le livre d'un héros d'avant-guerre, Alain Gerbaud. Le premier Français à avoir fait le tour du monde en solitaire à la voile. Grand défenseur par ailleurs de la cause des Polynésiens, de Tahiti. Et donc il lui faut un bateau pour aller à Tahiti. Et il se commande un voilier neuf dans un chantier naval de La Rochelle. Et c'est là qu'il décide de braquer une boutique de change. C'est aussi bête que ça. Il emprunte le revolver de son père, et comme il ne veut pas y aller seul, il embrouille son copain Criquet. Et vous connaissez la suite. Jacques Fesch, du haut de ses 24 ans, est typiquement ce qu'on appelle à l'époque un blouson doré, c'est-à-dire un petit bourgeois décadent. Voilà, voilà le portrait du zigomar qui vient de se faire pincer et qui, sans doute, va finir sous la lame de la guillotine. Et à ce stade, vous avez toujours un peu de mal à comprendre, comme moi, hein, pourquoi dans 50 ans, l'Église catholique va vouloir élever ce garçon au rang de saint. C'est que vous ne savez pas encore tout. Jacques Fesch se retrouve à la prison de la Santé à Paris. Une petite cellule sale, un lit, une table scellée au mur, un tabouret, levé 7 heures, café noir et pain sec pour le petit déjeuner, et puis ménage de la cellule, et l'après-midi, promenade une demi-heure seule dans une petite cour. Dîner à 18 heures, extinction des feux à 19 heures. On est très loin de Tahiti. Une fois par semaine, Jacques Fesch a droit à la visite de son avocat. Ce sont ses parents qui payent, bien sûr. Ils ont choisi le meilleur. Maître Paul Baudet, le ténor du barreau de Paris. Un homme tourmenté, devenu avocat par compassion. Ça va compter, beaucoup. Est-ce que Maître Baudet est un peu amoureux du beau Jacques Fesch? C'est possible, un peu. Car Maître Baudet est inverti, comme on dit à l'époque. Et comme il vient de Bourges, en Berry, au palais de justice, on l'appelle la duchesse de Berry. Mais c'est de la pure méchanceté. Car ce qui guide profondément cet avocat très humain, c'est sa foi. Il est très chrétien. Il va à la messe tous les matins. Il a même songé à se retirer à l'abbaye de la Trappe, dans l'Orne. Et puis finalement, il a juste fait vœu de chasteté. Et il a décidé de vivre sa vocation à travers son métier d'avocat. D'en faire un sacerdoce. Et donc à chacune de ses visites, lui et Jacques parlent pendant des heures. Des faits, bien sûr, la mort de ce policier, mais plus largement de la souffrance, du châtiment, de la pénitence, de la rédemption. Maître Baudet pèse autant qu'il peut sur le cheminement spirituel de Jacques Fesch, dont il sait que, sans doute, il va finir sous la guillotine. Et en parallèle, de retour en cellule, Jacques se lance dans la lecture, au moins 4 heures par jour. Et dans l'écriture, il y passe toutes ses journées. Et lui qui n'avait rien fichu au lycée, acquiert en quelques mois une vraie culture littéraire. Et ce faisant, il fait un chemin intellectuel. En parallèle, le jeune Fesch écrit beaucoup à sa maman, qui est très croyante. Et c'est elle qui, en octobre 54, lui fait parvenir à la prison de la Santé un livre qui sera déterminant. Un ouvrage de vulgarisation sur Fatima, un petit village du Portugal où la Vierge Marie serait apparue. Ce livre est une révélation qui l'amène à écrire des choses comme « À la racine du mal, de tout mal se cache le péché, c'est-à-dire le refus de l'amour, le refus de Dieu. Le péché, c'est le rejet de l'amour. » Il est en train de se découvrir une foi. Et en mars 1955, une nuit, il se convertit. C'est alors qu'un cri jaillit de ma poitrine, un appel au secours. Mon Dieu, en quelques heures j'ai possédé la foi, une certitude absolue. Et là, il va voir un homme qui lui aussi va beaucoup compter. L'aumônier de la prison de la Santé. Il veut se confesser et il veut communier. Comme il est à l'isolement, il ne peut pas aller à la chapelle. C'est donc l'aumônier lui-même qui vient lui porter le corps de Christ dans sa cellule. D'abord une fois par mois, puis tous les 15 jours, puis une fois par semaine et finalement presque tous les jours. L'aumônier qui lui porte aussi des livres, la Bible bien sûr, la vie des saints et des ouvrages de piété de toutes sortes. Et puis, en plus de l'avocat Baudet et de l'aumônier de la Santé, entre en scène un troisième homme, un jeune moine qui vient d'entrer dans une abbaye bénédictine et qui s'appelle Frère Thomas. Un jour, il lui écrit, par pure charité chrétienne. Jacques Fesch met du temps à lui répondre. Il le fait en avril 1956. « Mon frère, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Je suis confus de ne pas avoir répondu à ta longue lettre. Mais à ce moment-là, je ne ressentais pas ce que tu m'écrivais. Maintenant, je crois. Et c'est le début d'une longue correspondance qui va durer tout le temps que Jacques Fesch va passer en prison. Et il va y passer 3 ans. 3 ans d'instruction. C'est plutôt long pour l'époque. Et puis à un moment donné, il faut le juger. Et sur ce terrain, c'est très prosaïque. Rien n'a changé. Jacques Fesch est un tueur de flics. Il risque toujours la peine de mort. Le procès de Jacques Fesch s'ouvre le 3 avril 1957. Il est prévu pour durer 3 jours. Sur le banc des victimes, la famille du policier tué et 4 syndicats de police. Quand Fesch entre dans le box, il fait sensation, disons-le. Hein. Il est grand, beau, très bien élevé, très élégant dans son costume gris. Mais vu du public, il est froid, il est méprisant. Et donc il explique à la cour son mobile. Il voulait s'acheter un bateau pour devenir navigateur. Et là, l'avocat général lui dit
« Il y en avait des bateaux qui partaient, monsieur Fesch. Ils auraient pu vous tenter. Ils allaient vers l'Indochine. »
C'est mal parti. Il explique ensuite qu'il est myope, que dans sa fuite, il a perdu ses lunettes et que quand il a tiré sur le policier, c'était sans viser. Mais dans la salle, le public gronde, on le trouve cynique. Et ça ne s'arrange pas quand les policiers qui l'ont arrêté et interrogé viennent témoigner.
Au commissariat, je m'attendais à trouver un garçon abattu, bourré de remords. À ma stupéfaction, j'ai découvert un regard narquois. Narquois.
On fait aussi témoigner sa femme, Pierrette. Elle dit qu'elle est encore amoureuse, mais elle dit aussi qu'il est immature, renfermé.
Sa déposition sera la dernière de la matinée. Pour Frédéric Potcher, c'est de loin la plus émouvante.
Ça, c'est une des plus belles dépositions de témoins que j'ai entendues pendant une 30aine d'années. Elle a parfaitement défini son mari en disant « Il ne discerne pas le bien du mal. Il ne parvient pas à délimiter la fiction de la réalité. On ne lui a pas donné de sens moral. Ses parents en sont responsables. Il se savait incapable de concrétiser ses rêves de voyage, mais il n'avait pas la force de retomber sur terre. »
Et ensuite, ma foi, pour l'avocat de la famille des policiers, Maître Florio, c'est du billard.
Quand Jacques Fesch va commettre ses crimes, il a son père et sa mère qui ont tout fait pour l'aider. Il a une femme qui l'adore, et un enfant. Il a une maîtresse qui est enceinte. Je pose la question. Que pense tous ceux qui se sont débattus dans les pires difficultés, malades, sans argent, et qui ne cherchent dans des travaux souvent ingrats qu'à gagner leur vie. Alors on nous dit qu'en 3 ans de prison, Jacques Fesch s'est transformé, dans le sens du bien, qu'on juge un autre homme, Baliverne. Baliverne, le Fesch d'aujourd'hui ne vaut pas mieux que le Fesch d'hier.
Dans la foulée, l'avocat général parachève la mise à mort.
J'ai cherché dans le dossier, n'est-ce pas, quelque chose qui me permette de faire fléchir en faveur de Fesch le fléau de la balance. J'ai cherché dans sa vie. J'ai cherché dans les faits. Je n'ai trouvé que le cancre, le jouisseur, le voleur, l'assassin. Alors j'ai compris que j'ai le devoir de vous demander le châtiment suprême.
Reste maintenant à entendre la plaidoirie de Maître Baudet, son avocat, son ami, son confident. C'est pas facile pour lui, d'autant que par pudeur, il ne veut pas évoquer la conversion de Fesch.
L'avocat général a dit « Il faut que l'on sache que l'on ne tue pas un policier impunément. » Or la morale n'est pas le sacrifice de l'homme à la société, ça serait trop simple. Notre morale doit être le respect de l'individu. Les lois ne sont pas faites pour la défense d'un ordre social. Il n'y a pas de crime qui mérite un autre crime.
On donne une dernière fois la parole à Jacques Fesch. Il se lève, pâle.
Je voudrais présenter mes excuses à Madame Vergne.
Je n'en veux pas! Je ne veux pas que vous me parliez!
Et le 6 avril 1957, après 3 jours de procès et 1h15 de délibéré, la Cour rend son verdict.
La Cour condamne Jacques Fesch à la peine de mort et ordonne que l'exécution se fasse dans l'enceinte de la maison d'arrêt de la santé où il aura la tête tranchée. Je vous remercie.
Jacques Fesch est exécuté le 1er octobre 1957 à l'aube. Ça pourrait être la fin de l'histoire. Ça n'est que le début, en fait. Le début d'une autre histoire. Car Jacques Fesch a passé ses derniers instants à écrire. À sa femme, à sa mère, à Paul Baudet, son avocat, et à son ami le frère Thomas. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Qu'il est bon, notre Seigneur. Et à partir des années 70, on va ressortir et publier les lettres de Jacques Fesch dans 2 livres qui ont bouleversé toute une génération de catholiques. Lumière sur l'échafaud et Cellule 18. Jacques Fesch est devenu à cette époque un symbole de ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire la capacité de l'homme à se racheter par la foi. Et à la veille de Noël 1993, le cardinal de Paris, Mgr Lustiger, annonce l'ouverture d'un procès en béatification. Il veut que Jacques Fesch devienne un saint. Personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. Ne pas voir cette évidence constitue une perte de sens chrétien. Et voilà. La machine à réhabiliter Jacques Fesch est en marche. C'est toujours long, un procès en béatification. Mais ça se fera, sans aucun doute, ça se fera. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec l'avocat député Gilbert Collard, parce que vous avez écrit un livre aux presses de la Renaissance, il y a quelques années, consacré à Jacques Fesch, qui s'appelle « L'Assassin S.A.I. ». N.T. Vous pensez comme moi que, sans aucun doute, la béatification de Jacques Fesch aura lieu.
Il ne faudrait quand même pas oublier que le premier saint de l'histoire de la chrétienté, c'est le bon larron. Et il a été béatifié par le Christ lui-même. Donc, on peut espérer que l'Église, faisant fi de tous ces théologiens un peu confis en complications de dévotion, aura le courage de faire entrer au Panthéon des Saints un homme qui a cheminé du mal vers le bien. C'est la beauté de notre histoire.
Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire, d'ailleurs, vous ?
Alors là, écoutez, c'est un cheminement de signes. Un jour, j'ouvre le journal et je lis qu'un vieux collectionneur vend toute une collection d'Historia, dans l'Hérault.
Oui.
Avec ma femme, on prend la bagnole et on y va. Et on tombe sur une collection extraordinaire d'Historia, du numéro 7 au numéro, je ne sais pas, 1800. Et dans le tas d'Historia, je prends un numéro, je l'ouvre, et je tombe sur une chronique judiciaire écrite par Frédéric Potcher, qu'on a entendu tout à l'heure.
Ancien chroniqueur judiciaire.
Grand chroniqueur, numéro 1. Et qui raconte l'histoire de Jacques Fesch. Je lis cette histoire, et elle me bouleverse. J'achète les livres consacrés à Jacques Fesch, et puis je n'y pense plus. Et quelques mois plus tard, le 24 décembre, ma secrétaire m'appelle et me dit « Il y a un monsieur Trogneau, qui cherche à vous joindre. » Ayant lu l'histoire de Jacques Fesch, le nom me parle.
C'est son fils.
C'est son fils. Je dis mais de son téléphone, vite, je l'appelle.
On va vite là-dessus, vous êtes devenu son avocat, quoi. C'est-à-dire,
c'est ça,
cette
oui,
histoire vous est retombée dessus.
Oui, on lui a permis de devenir officiellement le fils de Jacques Fesch, du reste.
Vous êtes battu pour ça?
Oh oui, absolument, après un arrêt de la Cour de cassation. Bon. Alors, il m'a au téléphone, et il me dit, vous savez, je suis un peu embarrassé, mon nom vous dira rien. Je lui dis, ah, stop, votre nom, il me parle beaucoup. Bon. Et je fais la connaissance, à ce moment-là, du fils de Jacques, qui m'apporte des documents, qui m'apporte des dossiers, et j'entre dans l'histoire, et c'est comme ça que je découvre de l'intérieur, en quelque sorte, l'histoire de Jacques.
Alors, venons-en au fait. Vous semblez dire dans votre livre, et c'est une idée très intéressante, que c'est parce qu'il ne croit pas qu'il tue. Vous écrivez « Les sociétés incapables d'offrir du sens à l'existence poussent au crime ».
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Et ce sont ses parents qui ne croient pas non plus.
Quel que soit, qu'on se comprenne bien, quel que soit le sens, il faut croire à quelque chose, ne serait-ce même, comme le disait Romain Gary, qu'à la poésie. Déjà, c'est croire à autre chose qui nous dématérialise. Voilà. Et je suis persuadé, risque de me tromper, qu'une société qui ne donne pas de sens est une société qui nous installe dans la barbarie. Et Jacques, quand il va cheminer de sa matérialité vers la spiritualité, va comprendre que le péché, ben, c'est le manque d'amour. Quoi. C'est pas d'aller picoler ou d'aller baiser dans un coin ou ailleurs, ou de se comporter un peu pas très conforme. Non, c'est le manque d'amour.
Mais dans toutes les sociétés, Gilbert Collard, et là je m'adresse aux députés, tuer un flic, c'est un crime supérieur aux autres.
Ah oui, tout à fait.
C'est normal, ça.
C'est normal, tout à fait, parce que c'est le représentant de l'ordre. Mais là, la question qui se posait pour Jacques, c'est que visiblement, il avait tiré au jugé. Et que peut-être, dans un autre contexte, il n'aurait pas été condamné à mort, mais on a l'impression qu'il l'a voulu, sa mort. On a l'impression qu'il voulait expier, parce que il n'a pas cherché à se défendre, quoi. À aucun moment, quand on visite le procès, on se rend compte que il regrette tellement ce qu'il a fait qu'il va jusqu'au châtiment suprême, quoi, pour expier.
Est-ce qu'il a des circonstances atténuantes?
Oh,
son
oui,
père.
Oui, le père qui est un sale mec. Hein,
qu'il n'aime pas en vérité.
Son père ne l'aime pas. Son père est antisémite. Son père est violent, il maltraite sa mère. Moi, j'ai trouvé d'un point de vue analytique étonnant que ce père banquier provoque un fils qui va chez un agent de change. Voilà. N'est-ce pas?
Ouais.
On a presque l'impression qu'il cambriole son père.
Ouais.
Et avec l'arme de son père.
Ouais.
Il y a là tout un travail d'interprétation qui vaudrait la peine qu'on le fasse, parce que c'est pas un hasard, quoi. Bon, il va frapper l'agent de change qui lui rappelle tellement son père.
Et puis Tahiti, ça nous réconcilie avec lui, c'est-à-dire qu'il cherche quelque chose de paisible probablement, de serein.
Et puis c'est un lecteur de Gerbault.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais...
Je le raconterai, je pense, assez vite l'histoire de Gerbault.
Elle est magnifique. C'est le premier grand sportif navigateur. Et puis c'est le premier grand écolo peut-être, qui est capable de dire à cette époque que la vie est ailleurs. Voilà. Et Jacques, il va entrer dans cette espèce de rêverie qui est en contradiction complète avec l'appât du gain. Complet, on a l'impression qu'il a les semelles de Rimbaud, quoi. Bon,
c'est la
suite de la psychanalyse.
Le strict opposé de
la vie de son père. On a l'impression qu'il part sur les pas de Gauguin. Bon, il rêve d'aller à Tahiti, de se débarrasser de ce monde, et puis pour accomplir ce rêve insensé, quoi, ce rêve de fou, il va commettre ce crime qui va l'amener à un comportement extraordinaire en prison. Vous savez, si j'ai 30 secondes, j'ai rencontré un jour, je reçois un coup de téléphone de Marc Anthony. Alors pour les gens qui ignorent qui est Marc Anthony, il fut impliqué dans l'affaire Delon. L'affaire dans laquelle Delon n'était pas du reste impliqué. Et il me téléphone un jour en me disant, voilà, je voudrais que vous me défendiez parce que j'ai un reliquat de procès, etc. Bon, je le rencontre et il me demande où j'habite. Et je dis, quand je suis à Paris, j'habite Montmartre. Bien, Montmartre. Moi aussi, j'y vais tous les dimanches. J'y vais, pourquoi, mon Dieu? Il me dit, mais je vais à la messe. Je dis, comment, vous? Le proxo, vous allez à la messe? Il me dit, oui, mais sans souvenir de quelqu'un que j'ai bien aimé. Je dis, mais c'est qui? Il me dit, ben Jacques. Je dis, pardon? Il me dit, oui, j'ai bien connu, mais ça vous dira rien, là encore. Ça vous dira rien. J'ai bien connu un dénommé Jacques Fesch. J'ai été chargé, vous savez, il a été condamné à mort. J'ai été chargé de le surveiller. Le directeur de la maison d'arrêt m'avait demandé de le surveiller.
qu'il ne se suicide
qu'il
pas
ne se suicide
d'être
pas,
guillotiné.
Oui. Et il m'a tellement bouleversé, cet homme. Quand sa mémoire, ben, je vais à la messe.
Il avait fait un disciple. Alors justement, sa conversion, bon, c'est ce qu'on appelle un born again. Parce qu'en vérité, il est catholique, il a certainement été baptisé, fait toutes ses communions, etc.
Mais il est athée complètement. Hein.
Mais il est athée. Alors moi, je me méfie toujours un peu des born again, parce qu'il y a un côté magique, là, un peu étrange, qui me fait plus douter de la réalité de leur foi que celui qui a construit sa foi depuis tout petit, étayé par des textes, un apprentissage long, etc. Pas vous ?
Non. Non, parce que toute l'histoire des grandes conversions est faite... de ce moment de nuit spirituel, avec cette espèce d'embrasement du souffle. On le retrouve dans toutes les grandes conversions.
Un cri a jailli de ma poitrine, un appel au secours.
Voilà.
Mon Dieu.
Voilà. Ouais, ben oui, ben c'est ça. Saint Paul, ce sera pareil. Tous les grands convertis ont connu ce moment d'explosion mystique. Hein. Alors, il a été expertisé par des psychiatres. Hein.
Ouais.
Il n'est pas fou, hein. Il n'est pas délirant.
Sauf si les psychiatres se trompent, et vous savez qu'ils se trompent.
Ouais. Sauf si les psychiatres sont fous et délirants, ce qui peut arriver. Malheureusement, eux ne sont pas expertisés.
Parce qu'il y a autre chose qui me fait un peu douter. Je joue l'avocat du diable à dessein, hein. Mais c'est que la source de sa conversion, c'est la Vierge Marie, à travers le livre que sa mère lui porte au sujet de Fatima. Et en vérité, la Vierge est un personnage assez secondaire de la foi chrétienne. Elle n'est pas dans la Trinité, et ça n'est pas elle qui est au cœur de la foi.
Oui, il y a quelque chose qui vous échappe.
Eh ben là, il y a un truc que...
Eh ben oui. Alors, on va essayer d'analyser la situation. Qui il aimait, Jacques ? Qui n'était pas aimé ? Qui il aimait et qui était maltraité ? Qui il aimait et qui était humilié ? Sa mère.
Par son père.
Par son père. Et la Vierge, pour les chrétiens, c'est la mère.
Oui.
Hein, c'est la mère. Et là, il y a une espèce de transposition mystique.
Voilà. Ok. Est-ce que vous pensez que ce qui guide Maître Baudet, êtes-vous certain que ça n'est pas l'amour ?
L'amour homosexuel ou...
Oui, monsieur.
Entre Maître Baudet et lui ?
Qu'il ne soit pas allé au bout est une certitude, qu'il ait été amoureux platonique.
Je crois
volontiers. Parce que, évidemment, on veut toujours faire croire, vous connaissez les êtres humains, on veut faire croire que c'est la morale qui les guide.
On peut imaginer que ce soit leur sexe. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la morale guide.
Non.
Je pense qu'on est dans un univers de Tartuffe.
D'accord.
Et que plus on
Donc
parle.
Vous n'êtes pas sûr que Baudet n'est pas guidé par son sexe.
Je n'en suis pas sûr. Je ne pourrais pas l'affirmer.
Vous l'avez connu, Baudet, vous ?
Oui. Mon frère,
ça
bon,
vous rajeunit pas.
Ça m'arrange. Non, mais là, dites donc. J'ai pas connu Cicéron, c'est déjà ça de gagné. Hein.
Vous avez de l'admiration pour Baudet ? Parce que
oui.
C'est une drôle de manière de faire avocat. C'est assez laïque, normalement, avocat, n'est-ce pas ?
Bah, il porte la robe quand même. Bon, mais c'est laïque, mais un avocat digne de cette vocation, il est quand même un passeur d'âme. Hein. Expression de Baudet. Hein. Expression de Baudet. Il disait, quand on l'interrogeait, je suis un passeur d'âme. Bon. Il est pourtant évident que lorsqu'on est défendu, on préfère continuer à garder son âme sur terre. Hein. Mais il se sentait habité par une espèce de vocation, oui, belle, qui consistait à arracher le criminel aux entraves de son crime. Bon, il était un peu missionnaire dans les terres du mal, hein, c'est vrai.
Alors là, ma dernière question sera non pas pour l'avocat ni pour le député, mais finalement pour le croyant que je sens
en
vous, il mérite d'être saint ?
Je crois que les saints ne sont pas saints. C'est pour ça qu'on peut les sanctifier. Je crois que la vérité d'un saint, c'est qu'il a tellement été moche qu'il a réussi à l'être moins et à nous donner comme exemple qu'on peut arriver à construire de soi pour les autres une autre nature, surtout lorsqu'elle est très moche.
Ils savent au Rassemblement National que vous êtes un catho de gauche ?
Non, ils me prennent pour un catho de droite, mais je suis peut-être un catho contrarié. Hein.
Merci Gilbert Collard. Lisez ce livre qui est, empreint de beaucoup de sincérité de votre part. On sent un investissement à la fois mystique et moral en faveur de cet homme. Assassin, S-A-I-N-T, de Gilbert Collard, aux presses de la Renaissance. On doit le trouver dans les boutiques de livres d'occasion.
Ah oui. De vieilles occasions.
De vieilles occasions.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.